Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Tal Brutman, historien. Votre dernier ouvrage, en tout cas le dernier ouvrage que vous avez dirigé, c'est pour une micro-histoire de la Shoah, paru au Seuil en 2012. Mais nous vous recevons aujourd'hui en tant que commissaire scientifique de l'exposition La spoliation des Juifs, une politique d'État, 1940-1944, qui est présentée au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 29 septembre prochain. La spoliation des Juifs, appelée par les nazis « aryanisation » des biens juifs, a été pensée et mise en place dans l'Allemagne nazie, mais vos travaux et l'exposition montrent bien comment l'État français s'est investi dans ce processus, d'un point de vue politique, administratif, législatif, mais aussi en termes de communication vis-à-vis de la population française, afin de l'amener à gérer ou à racheter les biens appartenant à des Juifs. Vous montrez également, Tal Brutman, que cette spoliation qui exclut petit à petit la population juive de toute vie sociale va faciliter la mise en place de la solution finale, c'est-à-dire que ses conséquences vont bien au-delà du simple fait économique. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais que l'on revienne tout d'abord sur la genèse de cette exposition qui intervient 70 ans après la création du CDJC à Grenoble, le CDJC qui, dès la guerre, a constitué un fonds d'archives sur les spoliations des Juifs.
Alors, en fait, le CDJC est créé à un moment très particulier dans l'histoire de la guerre, en avril 1943, où interviennent plusieurs facteurs sur la question du devenir de la population juive une fois la libération intervenue. En tout cas, c'est comme ça que les choses ont été présentées. Mais aussi un moment très particulier parce qu'en Afrique du Nord, à ce moment-là, depuis novembre 1942, les Alliés ont débarqué et on assiste à quelque chose que nous, on a oublié, mais qui est que Roosevelt va soutenir un camp contre De Gaulle, qui est le camp de Darlan, puis de Giraud, qui sont des vichistes, c'est-à-dire anti-allemands, mais aussi antisémites. Et on est dans un moment charnière où, pendant une brève période, 6 mois, on va avoir un gouvernement français soutenu par les Alliés qui va continuer à mettre en œuvre une politique antisémite. Or, quand le CDJC est créé, notamment par Schneerson et d'autres personnalités de la résistance juive pendant la guerre, ils ont comme préoccupation de savoir quelle va être la place des Juifs une fois la République restaurée. Or, l'exemple qu'ils ont sous les yeux en Afrique du Nord montre que rien n'est gagné. Alors que De Gaulle a promis depuis quasiment l'été 1940 que les Juifs seront réintégrés comme citoyens, ils ont devant leurs yeux un autre exemple qui est celui de Juifs qui ne se redeviennent pas citoyens. Le décret Crémieux, par exemple, est toujours abrogé au moment où intervient la création du CDJC. Donc on est vraiment dans un moment très particulier où l'une des préoccupations, c'est notamment la question des spoliations et où les fondateurs du CDJC vont se donner comme mission prioritaire, pas principal mais prioritaire, de réunir le maximum d'informations sur la politique de spoliation qui est alors en cours, qui est mise en œuvre par Vichy depuis l'été 41, qui a été introduite par les Allemands à partir d'octobre 1940 sur le territoire français et qui bat son plein littéralement en 1943. Donc on a cette conjonction de tout un ensemble d'éléments qui font que pour les contemporains, la politique de spoliation apparaît comme quelque chose de fondamental et c'est une politique qui est très importante. Dans les années 30, quand elle est introduite en Allemagne, on appelle cela les pogroms blancs, par exemple. Ça montre la violence de cette politique. Violence que nous, on a oubliée pour une raison très simple, c'est qu'après, il y a eu d'autres formes de violence. Alors, le pogrom de la nuit de cristal, par exemple, en 1938 en Allemagne. Et ensuite, les violences liées au cours de la guerre à partir de 1939 contre les populations juives en Europe. Et évidemment, la Shoah. Donc, ces violences physiques successives ont fait oublier la violence de ce qu'était la politique de spoliation à partir de son introduction. Et c'était évidemment une politique excessivement violente.
Justement, ce processus de spoliation, vous le disiez, Tal Brutman a été mis en place très tôt dans l'Allemagne nazie, quasiment dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, notamment avec le boycott des entreprises appartenant à des Juifs. Qu'est-ce qui s'est mis en place exactement ?
En fait, dès 1933, les nazis poursuivent un but, somme toute, assez simple, c'est de littéralement pourrir la vie des juifs en territoire allemand pour les forcer à quitter le territoire. Tout est fait pour empêcher les juifs de vivre normalement. Donc il y a toutes les exclusions professionnelles. Dès 1933, les juifs sont exclus des administrations en Allemagne, par exemple. Et simultanément, tout va être fait pour rompre les liens, notamment sociaux, entre les juifs et les autres allemands. Et notamment, en empêchant les Juifs de gagner leur vie, ce qui est une des méthodes qui va devenir très rapidement un des principaux axes des politiques antisémites nazies, avec en avril 1933 l'introduction du boycott, où des SA ou des SS vont être postés à l'entrée des magasins qui appartiennent à des Juifs pour les signaler aux Allemands et empêcher les Allemands qui voudraient y rentrer d'y faire leurs achats. Donc dès 1933, on a cette politique qui consiste à empêcher les Juifs d'exercer leur profession dans le champ économique privé, par opposition au public où la question était réglée très rapidement. Et cette politique-là va prendre de plus en plus d'ampleur, localement d'abord, au niveau des régions, puisque l'Allemagne fonctionne par région avant tout, avant d'être ensuite, en 1938, adoptée comme une loi nationale, qui est ce qu'on appelle l'aryanisation en français, qui est un barbarisme de la langue nazie. Arisierung, ça veut dire « rendre à rien ». Mais c'est littéralement « rendre à rien », c'est une politique pensée par les nazis et ensuite par les autres gouvernements antisémites, comme une politique de décontamination. L'expression « bien juif » qui est rentrée dans la langue française depuis Vichy, c'est une expression antisémite. Il n'y a pas de bien juif, il y a des biens qui appartiennent à des juifs. Il n'y a aucun bien qui a été circoncis par un rabbin qui l'aurait rendu juif. Mais cette expression « bien juif », c'est l'expression même de la logique antisémite qui fait que le propriétaire juif contamine le bien et il faut donc le décontaminer en, entre guillemets, l'arianisant. Et c'est cette politique-là qui est pensée par les nazis dans les années 30, qui est mise en œuvre par les Allemands très largement, et ensuite qui va s'étendre peu à peu à ce qu'on appelle l'Europe allemande. Alors l'Italie fasciste à partir de 1938, puis au moment charnière du déclenchement de la guerre en 1939-1940, ça va s'étendre comme une traînée de poudre, à la fois dans les régimes alliés au Troisième Reich, ou qui naissent des conquêtes allemandes, comme la Croatie ou Stacha, ou dans les territoires occupés par les Allemands, la zone occupée en France par exemple, et ensuite ça va être repris par le gouvernement de Vichy. Mais c'est quasiment dans l'ensemble de l'Europe allemande qu'en 1940-1941, cette politique de dépossession systématique est mise en œuvre, avec quand même une différence avec les années 30, c'est que dans les années 30, l'objectif poursuivi était de forcer les Juifs à émigrer. À partir du déclenchement de la guerre, il n'y a plus d'émigration possible. Donc désormais, c'est l'organisation d'une mort littéralement sociale des Juifs qui est mise en œuvre par tous les gouvernements. On dépossède les Juifs en France, par exemple, mais ils ne peuvent pas sortir du territoire, ils ne peuvent émigrer nulle part. Et donc ça participe d'une politique d'exclusion de plus en plus féroce, de plus en plus dure. Il y a l'exclusion physique, notamment en France avec les camps d'internement, il n'y a pas que les ghettos à l'Est, et il y a aussi cette exclusion sociale, économique, qui est mise en œuvre sous couvert d'arianisation et d'autres grandes lois d'exclusion, comme le premier et le deuxième statut des Juifs en France.
Justement, en 1940, la France est occupée. Comment va réagir l'État français face à cette politique imposée, dans un premier temps, par les occupants ?
Alors, je dirais plutôt introduite qu'imposée, même si de fait il l'impose en zone occupée. Mais les Allemands l'introduisent en zone occupée. Alors dès la première ordonnance, ils exigent que les magasins appartenant à des Juifs soient marqués magasins juifs. Et puis à partir d'octobre, avec le recensement, il va y avoir l'introduction de l'arianisation à proprement parler. Mais pour Vichy, ça va poser un problème de fond. Alors pas pour des raisons humaniste, évidemment, c'est que la politique de dépossession mise en œuvre par les Allemands va enrichir les Allemands au détriment de la France. Donc si les Allemands introduisent cette politique-là, il faut à tout prix qu'elle soit récupérée par l'État français pour qu'il n'y ait pas de richesses appartenant à la France qui quittent le territoire français. Et dès octobre 1940, il va y avoir des tractations entre l'occupant et le régime de Vichy pour voir si le régime de Vichy est prêt à introduire les lois d'arianisation en octobre 1940. Pour le gouvernement français, c'est un peu tôt pour une raison très simple. On a affaire à un gouvernement qui vient juste d'accéder au pouvoir, qui est jeune et qui ignore l'assise populaire qu'il a. Et quand il va préparer le premier statut des Juifs, qui va être promulgué à la fin du mois d'octobre, mais écrit au début du mois d'octobre, il va ignorer comment le statut va être reçu par la population française. Il craint qu'il y ait des réactions défavorables. Et donc il va juger peu opportun dans un premier temps d'introduire immédiatement l'arianisation, qui sera introduite quelques mois plus tard, en fait, à partir de mars 1941, quand est créé le commissariat général aux questions juives. D'emblée, dans les statuts qu'il le crée, une de ses deux missions, c'est de préparer la dépossession des Juifs. C'est indiqué textuellement. Donc à partir de mars 1941, la France suit l'Allemagne et en fait une politique nationale au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de la zone occupée ou de la zone libre, mais l'ensemble des territoires français, donc la métropole, l'Afrique du Nord et tous les territoires de l'Empire, aussi bien en Afrique qu'en Asie ou en Amérique.
Est-ce que les autres pays occupés ont réagi de la même façon ?
La quasi-totalité, à une exception près, ont tous introduit des politique d'aryanisation, ou sous une autre dénomination, en Italie par exemple, notamment sous la République sociale italienne qui va être créée en 1943, après la chute de Mussolini, ce qu'on appelle la République de Salo, ça va être appelé la socialisation, puisque les biens des Juifs profitent à la République sociale italienne, ça va être la socialisation. Dans la Croatie, Ustasha, ça va prendre le nom de nationalisation.
Oui, mais en l'occurrence, ce sont des pays fascistes.
Ce sont des pays fascistes, mais ou pas forcément. La Roumanie, par exemple, c'est un régime autoritaire, ils vont appeler ça la romanisation. Mmh. Il y a en fait quasiment qu'en France où le terme va être repris par un gouvernement non allemand à son propre compte. En France, on ne va pas chercher à renommer cette politique allemande. Elle s'appelait aryanisation en Allemagne, elle s'appelle toujours aryanisation en France. Et puis elle va être introduite en Belgique, aux Pays-Bas, dans des pays qui sont directement occupés et administrés par les Allemands.
Oui, c'est-à-dire que là, dans ces pays-là, les richesses produites par cette spoliation vont revenir directement à l'État allemand.
À l'État allemand ou par des circuits plus compliqués, mais aux Pays-Bas, par exemple, ils utilisent une banque qui appartenait avant-guerre à des Juifs pour justement encaisser les sommes. En France, ces sommes-là vont directement à l'État français par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, où une partie des sommes, en gros 90%, vont sur un compte où elles ne bougent pas, puisque l'argent n'est pas reversé aux spoliés, évidemment, et 10% vont alimenter les caisses du commissariat général aux questions juives, ce qui fait qu'on a une politique qui s'auto-alimente. On dépossède les Juifs, et une partie du produit de cette dépossession permet à l'administration qui est en charge de procéder à cette politique de s'auto-financer.
Votre exposition montre très bien l'adhésion de la population française à cette politique, puisqu'en l'occurrence, pour aryaniser un bien, selon le terme utilisé à l'époque, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas juif, qui accepte de gérer, voire d'acheter ce bien.
Alors, évidemment, de toutes les politiques antisémites qui ont été mises en œuvre en France ou ailleurs, c'est sans doute celle qui requiert le plus le concours de la population. On n'a pas affaire à uniquement une politique administrative qui se déroulerait dans un face-à-face entre la victime et le bourreau, qui serait un fonctionnaire ou un agent de l'État. Mais là, on a affaire à une politique qui requiert très largement le concours de la population. Alors, à chaque étape, c'est-à-dire qu'une fois que l'État dépossédé est mis à la tête de l'entreprise ou du bien immobilier, ce qu'on appelle un administrateur provisoire qui est chargé de gérer le bien et qui vient là, qui reçoit un travail spécifique, c'est pas un agent de l'État, il est employé pour cette mission très précise. On a l'intervention de toute une série de professions, des architectes qui sont chargés d'expertiser les biens immobiliers, des experts comptables qui sont chargés d'expertiser les comptes des entreprises, etc., jusqu'à la population directement qui est appelée à enchérir, à acquérir les biens. Donc tout le processus en appelle à la population française qui va en partie, pas toutes, mais en partie y souscrire, puisque à la veille de la libération, c'est quasiment 50% des biens qui ont été dépossédés qui ont déjà trouvé acquéreur.
Justement, pour revenir sur ces administrateurs, qui étaient-ils ? Est-ce qu'il s'agissait de collaborateurs convaincus, des antisémites, ou bien des gens qui n'avaient pas forcément conscience de participer à une entreprise criminelle, puisqu'elle était encouragée par l'État ?
En fait, on a un peu de tout dans la population des administrateurs provisoires. On a aussi bien des antisémites forcenés, convaincus, que des gens qui cherchent un travail et qui voient là une opportunité professionnelle sans forcément... Alors, il est difficile de dire qu'ils n'ont pas conscience. Alors, le terme criminel est sans doute un peu fort si on l'utilise au moment des faits, mais ils savent ce qu'ils font, puisqu'on les appelle à intervenir dans une politique contre la population juive, qui est revendiquée comme telle, qui est publique, et Vichy la revendique, puisqu'elle, pour Vichy, c'est un double prisme, c'est à la fois montrer que les juifs ont ce qu'ils appellent une influence sur l'économie nationale, ils ont gangréné l'économie française, et en même temps, ça me permet à Vichy de montrer que Vichy agit contre cette gangrène. Donc on a des gens qui sont au fait de ce qu'ils font, mais en même temps, ils le font au regard de la légalité de l'époque. Ce qui fait aussi que très peu seront poursuivis au sortir de la guerre, puisqu'ils n'ont fait, entre guillemets, que participer à la légalité. Donc ceux qui seront poursuivis seront les plus crapuleux ou ceux qui auront eu les comportements les plus criminels. Mais l'immense majorité ne sera pas inquiétée, s'ils ont tout simplement fait leur boulot. Et effectivement, une partie d'entre eux ne vont pas s'illustrer par un comportement violent à l'égard des victimes ou en rançonnant les victimes, ce que vont faire une minorité des administrateurs provisoires. Il y a même une très petite minorité qui existe mais qui est faible d'administrateurs provisoires qui vont essayer de protéger les victimes. soit en ralentissant les processus, notamment à partir de 1943-1944, quand on voit qu'il y a une issue à la guerre, que Vichy ne va peut-être pas ou sans doute pas s'éterniser, et puis que la libération est de plus en plus évidente, certains administrateurs provisoires vont faire en sorte de protéger les victimes. Mais là, on a affaire à vraiment une petite minorité face aux... On estime qu'en gros, c'est 20 000 administrateurs provisoires qui ont été en poste à un moment ou à un autre. Mais c'est vraiment un panel très large et très divers de comportements et de convictions politiques.
La dernière partie de l'exposition est consacrée à la question de la restitution. Quelles sont les étapes de cette politique qui s'est mise en place dès la libération ?
Alors, en fait, ce n'est pas vraiment la dernière partie, c'est plutôt la conclusion de l'exposition qui revient sur cette question-là. Alors, les gens font très souvent la confusion comme s'il fallait ipso facto, justement, une fois qu'on a traité de la spoliation, parler de la restitution, alors qu'on a affaire à deux choses radicalement différentes. La politique de spoliation, c'est une politique qui est mise en place par Vichy, qui a une histoire très précise, qui est bornée chronologiquement. La question des restitutions, c'est une autre politique qui est le fait de la République française et donc qui n'a pas de rapport direct. C'est pas la continuation, c'est la réparation de ce qui a été commis par Vichy. Et effectivement, on l'évoque très rapidement, tout simplement pour rappeler que on est dans un pays, ça n'a pas été le cas dans tous les pays au lendemain de la guerre, dans un pays qui agit très rapidement. Dès 1943, De Gaulle fait une déclaration très forte à ce sujet à Londres, où il souscrit une déclaration interalliée. Puis à partir de 1943, en Afrique du Nord, une fois qu'il va supplanter Giraud, des mesures vont être mises en œuvre qui vont s'avérer très rapidement insuffisantes. Et puis en 1944 et surtout en 1945, par l'intermédiaire de plusieurs personnalités très importantes, notamment René Cassin, évidemment, et une personne qui est beaucoup moins connue qui s'appelle Émile Thérouanne, qui a été en charge des restitutions d'abord dans la région de Lyon à partir de septembre 1944 et qui va se montrer une volonté très forte de procès de restitution qui va lui valoir d'être remarqué et en février 1945 nommé à l'échelle nationale pour procéder aux restitutions. Elle va avoir une politique très forte, très volontaire pour procéder à ces restitutions qui vont se poursuit jusqu'à la fin des années 40. Et on estime, là c'est les travaux de la commission Matteoli, on estime qu'à la fin des années 40, de 90 à 95% des biens qui ont été spoliés ont été restitués ou indemnisés. Sauf que le législateur, mais comme l'immense majorité des gens à l'époque, n'ont pas compris une chose notamment, c'est qu'il y a eu la Shoah, c'est-à-dire la disparition par famille entière des victimes de ces politiques de spoliation, et que donc il n'y a pas souvent de gens pour réclamer la restitution de biens. Et donc c'est cette partie de biens-là, 5 à 10% du total, qui vont échapper aux restitutions, qui vont d'une certaine façon tomber dans l'oubli, même s'il va y avoir des travaux très importants, notamment ceux du CDJC autour de cette question, durant la fin des années 40, puis durant les années 50 et 60, qui vont s'intéresser à ce sujet, mais ça va être très marginal. Le sujet va tomber en désuétude, notamment pour une raison très simple, c'est que les gens ont perdu des parents, et la préoccupation, c'est la mémoire des disparus. Et dans les années 80, on va avoir un basculement, notamment grâce aux travaux de Serge Klarsfeld avec le Mémorial des déportés juifs de France, qui constitue une forme de cénotaphe pour les victimes, qui vont aussi entraîner la reconnaissance en 1995 par Jacques Chirac de la responsabilité de l'État français dans la réalisation de la solution finale en France, qui font qu'une fois qu'on a fait le deuil des morts, puisque le travail de Serge Klarsfeld, la déclaration de Chirac participe à ce travail de deuil, on va pouvoir s'interroger sur des questions secondaires, donc matérielles. Et cette année charnière 95, elle coïncide avec une grande vague de questionnements qui va traverser le monde, littéralement des États-Unis jusqu'en Europe de l'Est, sur le devenir, que sont devenus les biens qui appartenaient aux Juifs notamment, et qui ont été très largement pillés. Et on va voir des commissions apparaître un peu partout, des commissions d'historiens, souvent créées à l'instigation des pouvoirs publics. En France, c'est le cas. C'est Alain Juppé qui va créer la commission Matteoli qui va être chargée d'expertiser ce qui n'a pas été restitué. D'abord de voir ce qui a été fait pendant la guerre, la politique de spoliation, et ensuite de s'interroger sur la politique de restitution. Et il va y avoir une vingtaine de pays à travers le monde qui vont s'interroger sur différents aspects de ces politiques de dépossession. Alors pour les pays directement impliqués comme la France ou l'Italie, évidemment, c'est les spoliations et les restitutions. Pour des pays neutres comme la Suède, ça va être la question de l'or nazi, ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud, sur d'autres biens qui seraient parvenus au lendemain de la guerre et qui proviendraient des spoliations ou des pillages, c'est-à-dire le pillage étant une forme de dépossession qui ne repose pas sur une soi-disant légalité. par différence aux spoliations. Et donc la commission Matteoli va travailler de 1997 au début des années 2000 pour estimer ce qui a été fait et donc notamment analyser ce qui n'a pas été restitué, les biens en déshérence, notamment environ 2 milliards de francs, à l'époque on est encore en francs, qui restent aux mains de l'État, des banques et des assurances et qui reviennent à des victimes qui n'ont jamais été donc restituées. Et cette somme va être abondé pour créer une fondation qui va devenir la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec ses missions, donc notamment l'histoire de la Shoah, mais aussi des questions sociales pour les victimes et pour les rescapés de la Shoah. Donc d'une part, la FMS est créée au début des années 2000 et d'autre part, une commission d'indemnisation des victimes de spoliation va être créée pour instruire les dossiers sur des questions qui n'auraient pas été restituées ou indemnisées au sortir de la guerre. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a eu toute une série de politiques au sortir de la guerre, donc celles que nous venons d'évoquer de la part de l'État français. Il y a aussi des lois allemandes dans les années 50, les lois dites Brugge et Beg, qui viennent indemniser une partie des victimes. Donc il y a eu pendant plusieurs décennies des politiques sur ces sujets-là qui ont souvent été oubliées, tout simplement pour des raisons historiques. Et la CIVS vient à nouveau finir cette histoire-là en indemnisant les cas particuliers, ce qui n'aurait pas été indemnisé à partir des années 40 ou 50.
C'est-à-dire ?
Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont jamais demandé, qui n'ont jamais revendiqué la restitution de leurs biens parce qu'ils avaient d'autres problèmes ou d'autres préoccupations. Quand vous avez fui pendant 2 ou 3 ans la chasse à l'homme en France, que vous êtes un juif de Paris par exemple, que vous l'avez passé dans le sud-ouest en fuyant d'un village à un autre et que vous revenez à Paris après la libération en 1944, qu'une partie de votre famille a disparu, votre préoccupation c'est de savoir ce qui est devenu votre famille, pas forcément d'aller réclamer votre boutique ou la machine à coudre qui vous servait pour vivre. Mais étant donné qu'on a affaire à une politique administrative qui était la spoliation, on a des traces à la fois de la dépossession et en général des restitutions. Et les travaux de la commission Matteoli ont notamment montré qu'une partie des gens qui ont été spoliés n'ont pas revendiqué leurs biens pour toute une série de raisons. Soit parce qu'ils sont morts, eux et leur famille, soit parce qu'ils avaient d'autres problèmes au sortir de la guerre qui leur paraissaient plus importants que de demander la restitution d'une patente, d'une machine à coudre, d'un pas de porte, etc. etc. Donc c'est ces cas très particuliers qui vont faire l'objet d'éventuelles indemnisations à partir du début des années 2000 par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation.
Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la justice est faite ?
Très largement, depuis la fin des années 70, notamment le travail considérable et fondamental de Serge Klarsfeld, qui a fait avancer très largement la question d'un point de vue scientifique et mémoriel, puis aussi par l'attitude des différents gouvernements qui se sont succédés depuis le sortir de la guerre, où il y a une politique de rétablissement républicain forte et volontaire, qu'il faut rappeler parce que c'est fondamental. Donc depuis 1943-1944, il y a eu des politiques très importantes, et surtout depuis les années 80 et les années 90, avec le moment charnière du discours de Chirac, mais aussi des volontés très fortes, celles de Juppé puis de Jospin, qui vont prendre acte des travaux. Alors, Juppé va créer la commission Matteoli, Jospin va recevoir le rapport définitif, les rapports de la commission Matteoli, et en tirer les conclusions. Donc on a une politique qui a peu d'équivalent dans le monde à l'égard à la fois de l'indemnisation et de la reconnaissance de ce qui s'est produit. À mon sens, il n'y a guère que l'Allemagne directement impliquée, mais il n'y a guère que l'Allemagne qui a procédé de la même manière, d'une façon aussi volontaire. Il y a énormément de pays qui ont eu des attitudes beaucoup plus problématiques durant les décennies écoulées, où la question à tarder à être traité, abordé, etc., etc. Il y a encore des pays où la question demeure très problématique, notamment en Europe de l'Est, dans les pays baltes ou en Ukraine, par exemple, où on a affaire à une absence souvent volontaire de la part des gouvernements face aux politiques de dépossession contre les Juifs.
Je vous remercie, Tal Brutman. Je rappelle que vous pouvez voir l'exposition « La spoliation des Juifs, une politique d'État 1940-1944 » au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 29 septembre prochain. C'était « Mémoire vive ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive.net.